Bonjour, nous sommes le lundi 30 septembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
On a changé de générique, mais on ne change pas de principe. La relève, c'est cette année encore 30 minutes avec un jeune talent, qu'il soit écrivain, musicien, cinéaste, architecte, ce qu'il veut. Aujourd'hui, on ne fait pas exception, on va parler amour et livres, université et désillusions. Notre invité est donc écrivaine. Bonjour Lola Nicole.
Bonjour.
Vous avez publié en... Quelle voix, dites donc, vous faites de la radio ?
Non, pas du tout.
Ah, vous auriez pu. Vous publiez en cette rentrée, au mois d'août, les éditeurs sont fous la rentrée, dans l'édition, un premier roman qui s'appelle « Après la fête » et c'est paru aux éditions Les Escales. Jusqu'ici, je ne me suis pas trompé.
C'est parfait.
Ouf. Votre éditeur nous dit que vous avez déjà publié un recueil de poésie, participé à un ouvrage collectif sur les passagers du RER, j'imagine dans la continuité du travail de Pierre Sansot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu ?
Sur le RER ?
Oui.
Alors c'était un projet un peu particulier parce que c'était une sorte de voyage à 360 dans le RER où il y avait un géographe, un sociologue, un urbaniste, un économiste qui faisait des papiers scientifiques et à ça s'ajoutaient mes poèmes et le travail d'un photographe. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une immersion comme ça totale dans ce...
Vous avez trouvé de la poésie dans le RER ?
Ah bah bien sûr, il n'y a que ça.
Le RER B, le A, lequel ?
À tous. J'ai passé beaucoup de temps.
Est-ce qu'il y en a un qui est plus poétique que l'autre ?
Non, j'ai une petite préférence pour le RER B, mais c'est parce que je l'ai beaucoup pris. Donc voilà, c'est très personnel.
Après la fête, donc, est votre premier roman paru aux éditions Les Escales. Et donc après déjà toute cette œuvre dont on vient de parler, un ouvrage collectif de la poésie, pourquoi vous êtes attaqué à la forme romanesque ?
Alors, la poésie, pour moi, c'était quelque chose d'assez instantané, des observations. Je pense que j'ai une poésie assez narrative quand même, donc il y avait déjà en germe l'histoire. Mais après, c'est vrai que c'était assez figé. Et là, j'avais besoin, pour raconter cette histoire, d'être sur le temps long. Et aussi, le roman permet de plonger plus profondément dans les sujets et de mener une réflexion sur le long terme. Là où la poésie, pour moi, c'est quelque chose de très instantané, de très quotidien, où j'ai pas envie de développer des réflexions, en fait.
On reçoit beaucoup de jeunes écrivains. Visiblement, en France, la littérature, c'est encore toujours le roman. C'est aussi ce besoin-là. C'est qu'en France, si on veut écrire, il faut faire un roman. Parce que c'est aussi difficile de trouver un éditeur autrement. Ou c'était vraiment un besoin impérieux de ce que vous lui racontez.
Là, c'est vraiment un besoin, un vrai besoin. Parce que moi, sinon, je me serais très bien contentée de la poésie que j'adore. J'adore les éditeurs de poésie. Blanc Volant, qui a édité mon premier recueil, c'est une aventure formidable. Enfin, voilà. Alors, c'est sûr qu'après, commercialement, c'est pas... On a forcément moins de lecteurs que sur le roman, mais non. En tout cas, sur l'aventure.
Alors, je le redis, votre premier roman s'appelle « Après la fête ». Et avant même d'ouvrir le livre, il y a deux échos. Le premier, c'est « Paris est une fête », le roman d'Hemingway. Vous y avez pensé quand vous avez trouvé ce titre ou pas du tout ?
Pas du tout. Non, non, pas du tout. En fait, le titre, c'était plutôt « Aurel San ».
Et en fait, c'est peut-être mieux même. Hein.
Le titre de travail, c'était beaucoup plus déprimant parce que ça s'appelait « La fin de la fête ». Donc, il n'y avait vraiment plus d'espoir. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure du projet, l'espoir est revenu. Mais en tout cas, non, c'était plus génération Aurel San que
alors, c'est très rigolo que vous disiez ça, parce que je ne savais pas du tout, évidemment. Le second écho que ça a eu en moi, c'est la phrase de Paul Celan, « J'ai 20 ans et je ne laisserai à personne le droit de dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Vous y avez pensé à ça ?
Je n'ai pas pensé, parce que je ne connais pas cette phrase, mais elle est magnifique. Mais je suis plutôt d'accord.
Vous ne pensez pas que 20 ans est le plus bel âge de la vie ? Avec vous, on a même l'impression que 30, même 25, voire 30 non plus. Hein.
Ben, si, en fait, moi, je pense que plus on vieillit, plus on s'améliore, plus on apprend de choses, plus on se connaît, plus on connaît les autres aussi. Et donc, non, je pense qu'il y a pas mal d'espoir.
J'espère aussi.
La fête s'achève et les derniers se pressent. C'est comme dans un rêve et il n'y a plus à boire, bonsoir, et y a plus rien à boire, bonsoir, et y a plus rien à boire, dans le vestibule où nos regards se croisent, vais-je enfin oser la mener sur la plage, bonjour. La mener sur la plage, bonjour. La mener sur la plage, bonjour.
Alors c'était Étienne Dao, Saint-Lunaire, dimanche matin, un extrait d'un de ses premiers albums, La Note et la Notée. On mettra le lien sur le site de l'émission pour ceux qui ont envie de l'entendre en entier, on est obligé de chanter. Est-ce que dans cette chanson on entend quelque chose qui évoque la fin de la fête? Ça vous évoque ça aussi, vous?
Oui, complètement. Et puis après la fête, le titre, c'est aussi en référence à une chanson d'Ayam qui n'est pas très connue parce que.
J'ai tout faux, moi.
Non,
je
non,
sens
c'est pas grave, c'est pas grave.
Les références sont mauvaises.
Mais non, toutes les références sont bonnes. Et dans la chanson d'Ayam, c'est vraiment ça.
Et donc, dans cette chanson d'Ayam, il y a quand même une chose, c'est qu'il y a un espoir, c'est qu'à la fin, qu'on n'entendra pas, il y a l'amour qui arrive. J'avais noté les paroles, la fête s'achève, les derniers se pressent, il n'y a plus rien à boire, mais tes lèvres suffisent. Bonjour. Vous avez dit il y a toujours l'espoir. Hein, donc,
ouais.
Alors on va parler de votre roman, parce que pour l'instant on parle autour de votre roman. Moi j'aime bien commencer toujours comme ça, d'aller autour. Et votre roman, il aurait pu s'appeler Raphaël et Antoine. Finalement, c'est l'histoire d'un amour. Ils sont deux, ils sont jeunes, ils sont sûrement beaux. On est toujours beau quand on est jeune. Ils s'aiment, ils ont de la vie pour eux, de la vie devant eux. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer?
Ils se rencontrent dans un moment un peu particulier, dans un espace-temps un peu particulier qui est le moment entre la fin des études et l'entrée dans le monde du travail. Donc avant la fin des études, c'est sûr qu'il y a une espèce de grande fête, un collectif très fort, une bande d'amis autour d'eux. Ils sont vraiment dans une légèreté. Et quand ils entrent dans le monde du travail, Raphaël trouve un emploi très vite. Quand Antoine met plus de temps à en trouver un, et il y a une espèce de fracture qui va naître entre eux. Qui va être le début des désillusions.
Alors la fracture, elle commence avant, je vous cite, hein, je vais lire quelques extraits. Vous écrivez à un moment, « Alors peut-être que tu ne pourrais rien dire ni faire, car tu n'avais reçu de ton père et du lieu de ta naissance qu'un seul héritage, celui du silence, là où je ne vivais que pour le langage. » Donc dès le départ, ils sont...
Bien sûr,
ils ne viennent pas du même monde.
C'est ça.
Vous croyez vraiment que... Alors, vous êtes jeune et vous ne croyez pas que l'amour est plus fort que tout et que si on s'aime, peu importe.
Non, j'aurais adoré, j'aurais adoré penser ça, mais non, malheureusement. En tout cas, dans ce moment de la vie où il y a un peu d'immaturité aussi de la part de ces deux personnages, l'amour n'arrive pas, en tout cas, à combler cette rupture.
Alors, le grand danger que j'ai eu en préparant cette émission et en faisant cette émission avec vous, c'est que j'ai envie de vous citer tout le temps. Alors, je vais le faire.
C'est très gentil.
Parce que je vous écrivais très précisément, de façon très, très... qui va au cœur. T'effaçant peu à peu jusqu'à devenir presque transparent. Et plus tu l'étais, plus tu t'en voulais. Je sentais peu à peu mon désir se décoller de toi, mon attention s'évaporer et ta colère grandir. C'est beau ça.
Merci.
Vous croyez que ça peut arriver comme ça?
De quoi
un couple qui se dérègle, c'est quelque chose de cet ordre-là.
L'un qui
s'en va, l'autre dont le désir s'en va, l'attention qui s'évapore et la colère qui grandit.
Ouais, je cite dans le roman une phrase de Michaud qui est « Le mal, c'est le rythme des autres ». Et je crois que c'est vraiment ça. À ce moment-là de leur vie, les deux personnages ne sont plus dans le même tempo, quoi. Y en a une qui commence en fanfare quand l'autre est dans l'attente, quoi, dans cette attente un peu angoissante, sachant qu'en plus, lui, il ne peut pas survivre sans emploi parce qu'il n'a pas ses parents derrière, il n'a aucun moyen de ressources. Donc vraiment, ils ne sont pas dans le même rythme, quoi. Il y a un truc qui se déchire dans ces rythmes-là.
Vous êtes, parce que vous êtes à la fois très, donc comme je viens de le dire et comme on vient peut-être de l'entendre, dans une poésie qui est une poésie du quotidien mais qui est très 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 travaillée. Et en même temps, vous êtes très sociologique. Vous citez Erving Goffman et il y a une notation qui est très fine dans votre roman entre les deux, le garçon et la fille. Le garçon ne vient pas du même milieu culturel et il y a le moment des cadeaux de Noël et lui offre des cadeaux qui sont un peu à côté de la plaque et elle l'aime mais elle est un peu gênée vis-à-vis de ses parents.
Oui, enfin, c'est, l'espace avec les parents, c'est plutôt un espace où lui, il est très content en fait, de pouvoir partager ça avec les parents de Raphaël parce qu'il ne peut pas partager ça avec ses parents qui ne comprennent pas ça. Donc,
on parle de culture,
il est content,
en fait, cadeau, de livres,
voilà,
de BD.
Il offre des BD.
Mais il offrirait un peu le prix Goncourt, ce garçon-là.
Oui, ça peut, oui.
Et il est chez des intellos, quoi, donc il lisera ça.
Exactement.
Et ça encore, là, vous croyez que ça comment dire, ça fissure une relation?
Ça peut fissurer parce que c'est vrai qu'il y a de l'inégalité, en fait. Enfin, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu envie de retranscrire. Un moment où la balance n'est pas équilibrée, quoi.
Je continue à vous citer, c'est pas grave. Nous vivions en somme une grande fuite en arrière qui nous protégeait de cette époque incertaine sur laquelle, ivres et élégants, voilà, j'ai fait une erreur, nous dansions. Il y a une grande fuite en arrière? C'est quoi cette grande fuite en arrière?
Non, alors ça, ce qui m'intéresse, c'est tout le retour, là c'est plutôt l'observation sociologique de l'époque, mais tout le retour au vintage par exemple, On revient au vinyle, on se fringue comme dans les années 90. Enfin, et je trouve que, alors, la mode est cyclique, mais dans toutes les époques, mais c'est vrai que je trouve qu'on s'attache vraiment à des codes un peu rassurants, parce que l'avenir est quand même assez inquiétant sur le plan écologique. Voilà, donc,
Et vous pensez que pour votre génération, c'est difficile d'être amoureux et de se projeter dans l'avenir à deux quand on est à ce point-là attiré par l'arrière, comme un élastique peut-être qui vous ramène ?
Je pense qu'il y a un peu de ça. Et au-delà de ça, enfin, sur les rapports amoureux, c'est pas, je creuse pas beaucoup ce thème dans le livre, mais il y a quand même un rapport très capitaliste en fait au couple où voilà, enfin, adopte un mec, c'est un mec qui tombe dans un caddie, quoi. Donc à partir du moment où il y a cette espèce de...
Ça, c'est pas pour les jeunes, si?
Non, ça, c'est pour tout le monde, mais du coup, les jeunes...
Je pensais que les jeunes n'y allaient pas, moi. Les jeunes filles, y vont?
Sur Adopte un mec, ouais. Non, c'est fini, ça, c'était il y a quelques années, mais maintenant, c'est une...
Je vous rassure.
mais voilà, c'est sûr qu'il y a cette idée de tous les possibles, et donc, du coup, on choisit pas, et donc, on fait rien.
Alors, la semaine dernière, on recevait Timothée Robard, l'acteur de Vif Argent. Vous avez vu ce film ou pas ?
Sinon, quel film, pense... pardon ?
Vif Argent.
Non.
Ah, bah alors, je ne peux pas vous poser ma question. Parce que je croyais qu'il y avait des correspondances entre votre livre et votre film. Vous écouterez l'émission.
Super.
Il lira votre livre et puis on verra.
Super.
Bien.
On fera une rencontre
c'est
à deux.
C'est pas grave. Est-ce que vous écrirez un jour le petit manuel pour s'éviter dans un appartement de 25 carrés ? Parce que je trouve que c'est une idée géniale que vous avez. Le livre est parsemé d'extraits de ce manuel qui est le moment où l'histoire d'amour se dérègle. Et où elle essaie tout pour ne plus le croiser. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous aimeriez faire un jour, ça ?
Non, je ne crois pas.
Ah, vous devriez, ça serait génial, je trouve.
Je laisse le soin.
Un roman d'amour décalé sur comment on peut s'éviter.
C'est du rail, hein, quand même.
Mais je pense que vous avez le talent. Alors, autre chose, moi, pendant le... Alors, c'est peut-être parce que vous avez travaillé dans le RERB. Au début de ma lecture de votre roman, et pratiquement pendant une bonne moitié, j'ai pensé que finalement, vous faisiez un portrait de Paris. Il y avait cette envie de décrire Paris ?
Oui, il y avait cette envie de décrire Paris, et surtout un Paris qui n'est pas le Paris des cartes postales. Une grande partie du roman se passe à la Goutte d'Or ou en proche banlieue. Enfin,
C'est celui que vous connaissez ? C'est celui où vous habitez ?
Oui.
C'est celui que vous aimez ?
Oui.
Ça se sent.
Ouais, je vis à la Goutte d'Or depuis 2013. Et c'est vrai que c'est un quartier où l'œil du poète et du sociologue est toujours en alerte parce que il se passe mille choses, il y a des scènes dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est un pari.
Et vous vouliez vraiment le décrire, vous vouliez le raconter ?
Ouais, parce que c'est tellement vivant et puis ça dit quelque chose aussi de l'époque. C'est une espèce d'enclave encore populaire dans un Paris qui quand même se vide un peu d'habitants. Enfin, le centre.
Il a changé depuis 2013, ce Paris-là ?
Alors, la Goutte d'Or, pas beaucoup.
Il arrive. C'est le village gaulois qui résiste.
Enfin. Ouais, un peu. Il y a quelques petites librairies qui apparaissent. Voilà, mais c'est vrai que c'est...
Quelques brasseries.
Ouais. Mais alors ça, c'est encore Barbès.
C'est pas vrai. C'est pas
encore
un
quartier.
Autre micro-quartier. Ouais. C'est pourtant pas très loin.
Et non. Mais c'est vrai que ça résiste bien.
Alors, j'ai lu que Annie Arnaud, l'immense Annie Arnaud, et si d'ailleurs à Stockholm, on écoute La Relève, s'il y a une Française qui devrait un jour avoir un Nobel de littérature, c'est bien elle, avait aimé votre livre. Alors ça m'a surpris parce que Annie Arnaud est vraiment très sociologique. Elle a un style très sec. Je me dis que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde.
Non, c'est la sociologie qui nous réunit, je pense.
Quel effet ça vous a fait, surtout, de recevoir une lettre d'Annie Arnaud ? Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça doit être...
C'était incroyable. à partir de ce moment-là, je me suis dit que je peux en vendre un. C'est pas grave, en fait.
Ah oui ?
Bah oui, c'est vrai que la reconnaissance des gens qu'on admire, c'est toujours... voilà, Et puis, c'est vrai que je pense qu'on se retrouve sur le côté sociologique. Et elle m'a dit que je faisais une sorte de sociologie poétique. Donc, je pense que c'est ça qui lui a parlé dans le livre.
Elle parle d'elle aussi. Vous ne parlez pas de vous. Vous avez inventé des personnages. Alors, c'est peut-être inspiré de votre vie, mais vous avez fait le choix de mettre de la distance. Elle s'appelle Raphaël. Vous vous appelez Lola. Alors, peut-être que Lola est un pseudonyme, je ne sais pas.
Non, Lola est mon vrai prénom.
Vous avez vraiment choisi de mettre à distance.
Oui, parce que alors pour moi, alors il y a bien sûr des expériences vécues, mais par contre j'avais besoin de mettre cette distance pour dépasser l'intime, pour essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'inventer des choses qui me permettent d'exprimer telle ou telle situation, telle ou telle réflexion. Et voilà, donc j'avais pas envie de rester au niveau de la...
Qui sont les auteurs que vous aimez, qui vous ont formé ? Annie Arnaud, donc, il y en a
Annie
d'autres ?
Annie Arnaud et mon autrice de chevet, c'est Goyarda Sapienza, qui n'a rien à voir avec
mon
travail.
Est-ce que vous pouvez en parler ? C'est l'art de la joie, hein,
ouais,
c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc
est-ce que vous pouvez en parler un peu ?
Oui, c'est une écrivaine italienne qui a eu très peu de succès de son vivant, et notamment qui a écrit cette grande œuvre qui est l'art de la joie, qui raconte toute la trajectoire d'un personnage qui s'appelle Modesta, Et c'est vraiment un portrait inouï d'une femme complètement libre, quoi. Une espèce de jouissance de la vie, de l'amour, de la politique. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est un peu le roman total.
Alors c'est publié en France chez Viviane Ami. C'est un...
Plus maintenant.
Ah, c'est plus chez Viviane Ami ?
Non, c'est au Tripode maintenant.
Oh, pardon. Autant
mais
pour moi.
C'est elle qui l'a publié et c'est elle qui l'a vraiment fait découvrir en France.
Ouais, c'est pour ça que j'avais ça en tête.
Ouais. Ouais. Et il me semble que d'ailleurs, c'est elle qui a publié en premier L'Art de la Joie.
Ouais, c'est
avant même que ça soit publié en Italie.
Et c'est... Alors là encore, contraste avec vous, parce que L'Art de la Joie, c'est un pavé, alors que vous êtes plutôt économe. On peut dire ça. Je sais pas si c'est économe, parce qu'en fait, c'est très généreux, mais vous écrivez très serré, on va dire.
Oui, c'est pas une référence pour ce livre-là.
Vous aimeriez écrire un grand roman comme ça de 500 pages avec plein de personnages.
C'est mon rêve, mais je sais pas si j'en suis capable. Je pense que c'est je pense que j'ai du boulot.
Mais vous êtes jeune, donc vous avez tout le temps devant vous. Qu'est-ce qui aujourd'hui. Non, mais j'ai aussi l'impression qu'en France, on reçoit moins bien ce type de roman, justement, grand roman ample avec plein de. Vous pensez qu'on peut le faire aujourd'hui, que ça serait bien vu?
Oui, je pense qu'il y a une vraie appétence pour le romanesque. D'ailleurs, on en a un peu marre des histoires autofictionnelles. Enfin, je pense qu'il y a, il y a quand même un retour du grand roman, notamment du grand roman social. Enfin, Nicolas Mathieu, ça peut en faire partie. C'est quand même assez riche, assez foisonnant. On sort du côté un peu intime.
Mmh. Et ça, pour vous, c'est une bonne nouvelle ?
Ouais. Moi, je suis éditrice aussi. C'est une très bonne nouvelle.
Ouais. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage?
Je me disais que les gens ils savent pas à quel point on a réussi notre life.
My life.
On a réussi notre life.
Ah ouais. Ha, j'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être, mes ex me regrettent. J'ai réussi ma life, j'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après deux grecs. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. Je rentre en boîte en Quechua, je suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est haha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Oxorel était sur la rythmique à face.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules, offrir des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, à ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Tu s'achètes pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life.
C'était Oxmo Puccino avec Aurel San, My Life.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Lola Nicole. Dis donc, cette année, les virgules sont courtes, hein, et je vais m'en prendre, je crois. Lola Nicole, je me rappelle, vous êtes romancière. Vous venez de publier Après la fête aux éditions Les Escales, et on n'a pas écouté par hasard Aurel San avec Oxmo Puccino, puisque à la fin du livre, dans une bibliographie, vous donnez plusieurs titres de rap, parmi lesquels Ménélique, NTM, PNL. C'est ce que vous avez écouté, vous ?
Ouais, beaucoup. Et c'est vrai que c'est une musique... pour un poète, c'est une musique importante parce que c'est le rythme, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est une musique qui m'aide dans la vie, quoi. Je sais pas comment dire, quand j'écoute du rap, quand je marche dans la rue, je me sens forte, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui rythme vraiment ma vie et que j'ai beaucoup écouté.
Et ça, dans votre manière d'écrire, vous en inspirez ? J'ai l'impression que vous avez un style plus classique.
Ouais, mais je m'en inspire pas, mais par contre, c'est une appétence, je pense, pour cette question de rythme et de mots, ouais.
Comme j'aime bien les jeux idiots, on a écouté Aurel San juste avant. Je vais vous poser un petit jeu. Vous savez, il a fait un tube l'an dernier qui s'appelle Simple ou Basique. Mmh. Attention, c'est un jeu très intelligent. Pour vous, le passage à l'âge adulte, c'est simple ou basique ?
C'est ni simple ni basique.
Et l'amour, c'est les deux seuls que je vais vous demander.
Alors, c'est pas basique, mais ça peut être simple.
Bonne nouvelle. Pour ce premier roman, Lola Nicole, vous avez contacté beaucoup d'éditeurs ou ça a été facile pour vous ?
Alors ça a été facile pour moi, mais parce que je suis dans le milieu et c'est vrai que ça aide, hein, je vais pas le cacher. Après, c'est un texte que j'ai commencé d'écrire sans forcément penser à publier, parce que c'est la première fois que j'écrivais de la prose. Et c'est vrai que c'était très nouveau pour moi et je pensais jusque-là que j'étais incapable d'en écrire. Et en fait, Anne-Charlotte Sangan, qui a publié ce texte, est une consoeur avec qui, que je voyais de temps en temps et qui venait de prendre la direction du domaine français des escales. Et qui m'a dit, mais c'est sûr, un jour, t'écris un roman, ta poésie est trop narrative. Voilà, et donc elle m'a un peu harcelée pour que je lui envoie, et je lui ai envoyé, et elle a aimé.
Alors, on n'en a pas encore parlé, vous l'avez évoqué déjà deux fois. Vous travaillez jusqu'à une date récente chez l'Iconoclaste, où vous étiez éditrice. Avant d'écrire votre manuscrit, vous avez fait travailler des auteurs sur leurs textes. Est-ce que ça a changé, vous, votre manière d'écrire ?
Ça n'a pas changé ma manière d'écrire, mais par contre, je suis devenue meilleure éditrice.
Alors qu'est-ce que ça fait un éditeur ? Je voulais en profiter que vous soyez là, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache, tout le monde imagine que l'éditeur il met son nom, il touche des pourcentages, il lit les textes éventuellement, qu'est-ce que c'est de travailler un texte ?
Bah, c'est énorme. déjà il y a toute la partie sélection de projets, c'est vrai qu'on en reçoit énormément et puis en fonction de la maison dans laquelle on est, on ne va pas forcément sélectionner les mêmes projets. Jusque là j'étais à l'Iconoclaste, là je viens d'arriver chez Delcourt pour monter une collection de littérature française qui va s'appeler Les Avrils et qui sortira ses premiers titres en 2020. Et donc il y a déjà cette sélection. Donc là, l'éditeur doit reconnaître une voix, le potentiel d'un projet. Et aussi,
c'est vrai que ça se voit à la première page, souvent. Vous qui en avez lu beaucoup de manuscrits.
Alors des fois, il y a des
premiers... On paraît que les mauvais, ça se voit tout de suite.
Les mauvais, ça se voit tout de suite, voilà. Par contre, les bons, ça se voit pas forcément tout de suite. Des fois, c'est enfoui sous des choses moins bonnes et il faut qu'on pousse, nous, vraiment le cœur du projet. Et après, le travail sur le texte, en fait, il est très différent en fonction des auteurs. Il y a des auteurs où ça va être juste une discussion. Là, moi, j'ai pas compris. Là, c'est flou. Là, c'est trop long. Enfin, voilà. Et après, l'auteur va prendre ou non en compte nos remarques. Des auteurs où ça va être plus sur du texte et on va proposer on va faire des suggestions, enfin, d'écriture même. Je dis pas du tout qu'on réécrit, mais en tout cas, on va un peu pousser.
On aide à rendre le texte meilleur.
Oui, on va pousser un peu l'auteur vers son meilleur. Moi, c'est vraiment comme ça que je le pense. Et après, l'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'auteur pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il veut faire lui et pas lui imposer quelque chose que nous, on voudrait. Parce qu'il y a toujours cette chose-là.
Ah, c'est ce risque-là, ouais, bien sûr.
Voilà. Donc moi, je parle beaucoup avec mes auteurs, avec cette idée de plus on en dit, moins on trahit. Et voilà.
Mais donc vous, du coup, quand vous voyez votre éditrice des escales, vous sentiez, vous voyez quand elle voulait vous manipuler, ce qu'elle voulait de vous, c'était plus difficile, vous pensez, pour elle, d'avoir quelqu'un qui connaît le métier de l'autre côté ?
Faudrait lui demander.
Et vous avez trouvé ça, vous l'avez trouvé dur ?
Elle ?
Ouais, par rapport à vous, comment vous étiez avec les auteurs ?
J'étais plus dure avec moi qu'elle avec moi. Non, elle a pas été dure du tout. Après, l'idée, c'est pas d'être dure et de casser. Hein. Les auteurs sont quand même fragiles. Hein. C'est la création. Ils mettent leur trip sur la table la plupart du temps. Donc voilà, il s'agit d'être doux. Et puis de toute façon, si on publie un auteur, c'est qu'on l'aime, quoi. Donc après, c'est juste pour l'accompagner.
C'est quelqu'un qui améliore le texte, qui aide à le rendre peut-être plus... pas plus homogène, mais je veux dire plus cohérent.
Cohérent. Et puis c'est vrai que nous, on a vraiment en tête le lecteur. C'est-à-dire qu'on se situe vraiment entre l'auteur, la création pure, et on a l'idée du lecteur. Voilà. qu'est-ce qu'il va comprendre de ça sans parler tous les jours avec l'auteur. Alors que nous, on parle tous les jours avec eux, il peut nous expliquer, ah ben là, j'ai voulu faire ça. Le lecteur n'aura pas ça. Donc nous voilà, on pense vraiment au lecteur.
Je vais reciter un passage, ça fait longtemps. En 5 ans, l'appartement, le quartier, moi-même avons vieilli, mais nous n'y faisions pas assez attention. Nous sommes trop près pour voir, trop pressés pour s'arrêter, contempler ce qui serait de toute évidence difficile de constater. Il faudrait changer de décor. Faut changer de décor
parfois pour mieux revenir.
Non, c'est marrant parce qu'à l'instant, vous parliez justement de cette idée d'être trop près pour voir quand on est l'auteur. Et donc aussi dans une histoire d'amour, parfois on est trop près pour voir ce qui se passe.
Bah, dans une histoire d'amour et dans la vie, c'est vrai que justement, là je parlais de ces personnages qui parfois sont un peu immatures, mais aussi parce que je pense que grandir, c'est prendre du recul. Et du coup, c'est vrai que j'imagine que plus on vieillit, plus on arrive à prendre cette distance et du recul et à voir les choses un peu plus dans son ensemble. Et là où les personnages sont...
Vous avez à peine 30 ans, je ne vais pas vous demander votre âge, parce que je suis un garçon galant et que ma maman m'a appris que ça ne se faisait pas demander l'âge des jeunes filles. Toujours est-il que vous êtes une génération qui avait vécu en première ligne les attentats de il y a quelques années. Qu'est-ce que ça a changé justement? Est-ce que vous pensez que ça a changé aussi quelque chose dans l'histoire de ces deux personnages?
J'ai pas voulu en traiter plus profondément dans le...
Vous les évoquez légèrement.
Je les évoque au tout début. Ils sont en toile de fond parce que je pense qu'effectivement, c'est en toile de fond.
Il n'y a pas besoin d'insister, vous n'êtes pas dans du naturalisme.
Non, pas du tout. Et puis en fait, c'est plutôt un rapport à la ville qui a changé. Je pense que c'est ça la
différence. C'est quoi? C'est on sort moins, on fait plus attention?
On sort toujours autant, on fait aussi peu attention. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... Au début, voir des militaires, ça s'est fondu dans le décor. Enfin voilà, il y a une espèce d'ambiance qu'on perçoit plus forcément maintenant, mais oui, je pense que ça a quand même changé des choses.
Et vous pensez que pour vos deux personnages, Raphaël et Antoine, ça a pu changer? J'aime bien dire ça parce que je trouve que ça leur donne un petit côté truffaldien. Ça leur donne un petit côté
Raphaël, Antoine.
Héros truffaldien. Est-ce que vous pensez que ça a changé leur vie? Je voulais pas vous piéger.
Non, mais c'est intéressant comme question. Je pense pas que ça ait changé leur vie parce que on s'habitue à tout en fait, et du coup ça. Mais par contre, c'est dans l'imaginaire collectif de cette génération et c'est dans l'inconscient, c'est sûr.
Le temps passe malheureusement trop vite. On n'aura pas le temps de parler. Si juste d'un mot quand même. Vous l'avez dit, vous allez lancer une nouvelle maison d'édition chez Delcourt, qui jusqu'à maintenant c'est de la BD, pour lancer une collection de romans français. Alors là, vous avez page blanche. Vous allez faire ce que vous voulez.
Tout à fait.
C'est une joie sans nom.
C'est incroyable. Vraiment,
vous avez déjà des manuscrits? Vous commencez à travailler?
Un programme pour 2020 complet.
Déjà? Combien de titres?
6 en première année, et puis après, à partir de 2021, 8.
Vous écrirez d'autres romans, vous?
J'espère.
Vous avez envie?
Oui.
Bah, de toute façon, Annie Arnaud vous l'a dit, donc il ne faut pas abandonner. On finit avec vos mots qui sont si beaux. Je pars sur la pointe des pieds sans vouloir laisser de traces. La vie ressemble à une feuille de papier. Parfois, pour avoir moins mal, on voudrait en effacer les plis. Les souvenirs comme des origamis, puis on voudrait retrouver une surface vierge, prête à prendre une nouvelle forme. On a beau tenter de l'aplanir, il reste toujours les marques des pliures anciennes. Heureusement. Merci beaucoup d'être venue, Lola Nicole. Merci. Vous venez d'écouter La Relève, je suis un peu bouleversé par ces mots magnifiques de Lola Nicole. Donc, c'était déjà le deuxième épisode de la saison 4, l'émission était réalisée par Antonin, elle était préparée par Christophe. La semaine prochaine, c'est la première semaine d'octobre, donc vous retrouvez la nouvelle émission qui s'appelle The Fail Coast, et nous on vous retrouve dans 15 jours, le 14 octobre à 14h, c'est facile. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site de Radio Campus Paris, émission La Relève. Merci, au revoir.